Direct en jeu, la radio insolite, chaque jour qui passe nous rapproche petit à petit de cette date symbolique du 6 juillet, de la grande parade pour l'ouverture du Festival of d'Avignon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Avignon, on a tout type de spectacle. On peut avoir du musical, on peut avoir du personnel, et puis on peut avoir de l'historique. Et grâce à mes deux invités de ce matin, c'est-à-dire Étienne et Pierre, j'ai découvert qu'il y a 130 ans, on était un peu dans une ambiance un peu chaleureuse en France, ça s'appelait la Révolution française. Et là, évidemment, on va parler d'un monsieur un peu connu, qui n'est pas passé inaperçu durant ces années-là. Bonjour Étienne, bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors, qui est Pierre, qui est Étienne?
La voix de basse, c'est Étienne, et la voix de baryton, c'est Pierre.
Parfait, donc vous allez chanter, là.
Non, malheureusement, on se cantonne au spectacle historique, pour ma part.
D'accord. Alors, on commence par Pierre. Pierre, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie?
Dans la vie, là, je suis comédien, metteur en scène, et puis à côté, je suis également professeur d'art dramatique.
D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait tomber dedans quand tu étais petit? C'est une rencontre?
Globalement, je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit, je suis tombé dedans quand j'avais 27 ans.
Ah, d'accord.
Donc, j'étais plus trop petit. Mmh. Et puis, c'est des moments de la vie où on est amené à se re-questionner sur ses choix, sur ce qu'on a envie de faire, pourquoi on a envie de se lever le matin. Et le théâtre m'est apparu à ce moment-là comme étant la seule chose qui donnait du sens à ma vie, et donc je me suis dit c'est ça qu'il faut faire, et donc j'ai commencé à prendre des cours, ça s'est bien passé, et depuis 10 ans j'ai ma compagnie et on produit nos spectacles et on en vit en faisant honnêtement, artisanalement et j'espère esthétiquement correctement notre travail.
Alors, si je dis pas de bêtises, la compagnie s'appelle The Big Cats Company.
Exactement.
Pourquoi ce nom?
Alors, Big Cat Company, déjà parce que ma compagnie et moi, on aime beaucoup les chats.
Oui, d'accord.
Voilà, et on voulait s'appeler la compagnie du gros chat. Et à un moment, je dis, oui, mais tu sais, la compagnie du gros chat, t'as un côté un petit peu ridicule. Maintenant, quand tu donnes un nom américain, c'était tout de suite plus sérieux. Donc, on l'a mis en anglais. Voilà. Mais c'était plus pour une blague.
D'accord, ok. Et qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est un théâtre particulier ou c'est un peu tout?
C'est un peu tout. C'est-à-dire, plus je travaille et plus mes envies de création de spectacles s'élargissent. Moi, je viens historiquement par ma formation. Du coup, on a été formé. C'est là où toute la troupe d'ailleurs s'est rencontrée, au cours Cochet de la Veine.
D'accord.
Donc et le cours Cochet historiquement est un cours qui met beaucoup en avant le répertoire classique français. J'ai commencé par des pièces, et notamment certaines pièces dans lesquelles Étienne jouait également, qui étaient des pièces de répertoire un peu méconnues, que Monsieur Cochet nous faisait travailler, qui est un répertoire du début du siècle, des pièces qui avaient été créées en son temps par Copeau ou par Jouvet. Et donc on a commencé avec ça, une pièce qui s'appelait le Paquebot Tenacity, qu'on a fait à Avignon 2 années de suite avec un très beau succès, dans lequel Étienne avait également le rôle principal. Donc, je travaille avec Étienne, c'est un compagnonnage de travail depuis près de 10 ans. Et après, j'ai refait une autre pièce sur la résistance de Salacrou, qu'on a joué au Roi René également à Avignon avec un beau succès, qui était une pièce sur la résistance. Je travaille sur un spectacle qui s'appelle La Beauté Sauvera le Monde, qui est un spectacle, qui est un seul en scène sur l'écoféminisme, donc qui est sur une résonance beaucoup plus contemporaine. Et là, sur le projet Danton, c'est Étienne qui est venu me chercher, Étienne qui est un ami et qui a écrit cette pièce. Je savais qu'il l'écrivait. Il avait commencé à réfléchir à la distribution et puis il lui manquait un metteur en scène. Et à un anniversaire où on s'est croisés, il m'a dit « Est-ce que ça t'intéresserait de travailler sur le projet ?» Et comme j'aime beaucoup Étienne et que j'aime beaucoup la Révolution française, j'ai dit oui.
D'accord. C'est un peu dangereux quand même, parce que quand on est sur le site internet de The Big Cat Company, on a une phrase de David Laudet qui dit « Les amis s'entretuent ». ils s'envoient
les amis s'entretuent. Vous avez...
ils s'envoient les autres à la guillotine sans savoir pourquoi, pour quelle croyance, quelle doctrine. Donc c'est un peu dangereux quand même d'être ami avec lui.
Ouais, on a beau essayer d'incarner au plus proche de ce qu'on en sait les personnages de la Révolution, on essaie d'en sortir quand même un petit peu après, ouais. et vivre notre vie à nous. Pas forcément aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont fait. Mais oui, on a, enfin, je rebondis là-dessus. Effectivement, ce que j'ai essayé de mettre en lumière, en avant, dans la pièce, c'est ça. C'est la relation très intime, très proche, très forte parfois qu'il y a eu entre tous ces personnages connus de la Révolution, notamment Danton, Desmoulins, Robespierre, etc., qui étaient des gens qui se connaissaient très bien, qui se sont même aimés fort, qui se le sont dit, écrit, etc., et qui, à un moment, pour des raisons politiques et d'enjeux de pouvoir et autres, s'envoient les uns les autres à la guillotine, effectivement.
Ouais, c'est un peu « je t'aime moi non plus », quoi. C'est...
Bah oui, je sais pas si c'est, ça n'est que ça, mais en tout cas, on se rend compte que ces gens-là face à un ennemi commun à abattre, qui était le roi et la monarchie, se rassemblaient, où on travaillait ensemble, on œuvrait ensemble, et à un moment, quand le roi tombe, et guillotiné, ben le voilà, les gens qui formaient Corse se font face les uns les autres pour différentes raisons et effectivement s'entretuent. Oui.
Étienne, toi qui as écrit cette pièce, qu'est-ce qui t'a inspiré? C'était parce que tu es passionné par cette période de la Révolution française.
Oui.
Parce qu'il y a des choses à découvrir. J'aime bien parce que ça s'appelle Danton, les derniers jours du lion. Donc c'est
du lion, ouais. C'est parce que lui il s'appelait comme ça, on l'appelait comme ça aussi. Hein, on lui disait qu'il avait un coup de, il disait qu'il avait un coup de taureau, un rugissement de lion et une écriture de cochon.
D'accord.
Voilà, donc c'est très animalier, c'est très bestial. Ça ressemble assez au personnage, mais qui était vraiment un orateur hors pair, puisque justement. Il avait une certaine horreur d'écrire, et donc il faisait tout à l'oral, il préparait absolument rien par écrit, et donc ça donne une idée quand même de ce qu'était ce personnage, qui quand il prenait la parole à la tribune ou dans la rue, captait aussitôt l'auditoire, quoi.
D'accord. Pierre, autant tu t'es occupé de la mise en scène qui est un gros boulot, autant toi, Étienne, tu es en même temps auteur et comédien.
Oui.
C'est... Pierre, pourquoi tu ne t'es pas mis dans la distribution aussi?
Bah alors, tu vas vite, hein, tu prêches le futur, puisque je viens de rentrer dans la distribution.
Génial, extra.
Voilà, donc il y a un des comédiens qui était initialement sur le projet qui a dû changer et qui a dû sortir pour des raisons d'emploi du temps, comme ça arrive souvent dans ce métier-là. Et donc, je le remplace. Donc, je fais comme Étienne, qui est auteur, enfin qui est une double casquette. J'ai moi également une double casquette.
D'accord. La question, c'est pour les deux. Est-ce que c'est facile d'avoir cette double casquette?
Bon, bah, disons que moi, je ne me sentais absolument pas capable et apte à faire la mise en scène, donc ça je l'ai jamais envisagé. Donc j'ai demandé à Pierre si ça pouvait l'intéresser, ce à quoi il a répondu favorablement.
D'accord.
Après c'est vrai que j'ai dû être comme j'étais auteur, j'ai dû être assez emmerdant parfois dans les répétitions, en intervenant, en disant oui mais j'ai écrit ça pour ça, là, derrière cette phrase, il y avait ça, ou derrière cette scène, il y a tel enjeu, enfin voilà. Alors qu'en fait, je me rends compte que le regard extérieur, notamment celui de Pierre, apporte des choses très intéressantes auxquelles j'avais pas pensé forcément pendant l'écriture, et c'est d'autant plus riche Voilà, je pense que les choses se sont calmées maintenant. J'essaie d'être oui. moins présent, de moins parler, de moins
interagir. Mais globalement, il n'a pas dû. Enfin, je trouve que aujourd'hui, là, c'est avec le deuxième Avignon qu'on fait, donc on a pas mal retravaillé avant cet Avignon 2023, puisqu'on a changé la scénographie, on a changé une bonne partie des costumes, on a modifié les aspects visuels sur certaines choses, donc on a continué, en fin de compte, le travail s'est continué entre 2022 et 2023. Mais donc, pour répondre à ta question, Alain, sur la difficulté de faire une double casquette metteur en scène et comédien. Alors auteur, je peux pas me permettre, enfin, je peux pas répondre à la place d'Étienne. Donc, en tout cas, moi, j'ai trouvé la collaboration d'Étienne sur cette double casquette en tant que comédien et auteur très agréable. Enfin, voilà, lui dit qu'il a été un peu Dixit emmerdant. Moi, je l'ai pas trouvé du tout embêtant. Et j'allais dire, c'est une force d'avoir dans une équipe l'auteur, c'est que des fois, quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Cette scène-là, tu l'as écrite, c'était quoi ton objectif? Bon, bah, au lieu de divaguer entre comédiens pendant 3 heures, bon, bah, l'auteur est à côté, on lui dit pourquoi t'as fait ça, et en trois minutes, on a la réponse.
D'accord.
Donc c'est en termes de process de ce travail, ça offre une grande fluidité. Après dans la pratique donc moi c'est sur je en tout cas moi j'ai pas trouvé Étienne embêtant du tout dans ses remarques en tant qu'auteur. Ça nourrit mon travail et faire du théâtre, c'est parfois ne pas être d'accord, donc entre guillemets, parfois qu'on soit pas d'accord entre nous, bah ça apporte de la discussion et ça fait avancer le débat. Ensuite, moi, dans ma pratique metteur en scène et comédien, là, effectivement, moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois, une espèce de double casquette comédien et metteur en scène. Mais je vous cache pas que c'est un peu compliqué parce que j'en parlais d'ailleurs avec un ami il y a pas longtemps. Je ne sais pas comment neuronalement ça s'explique. Et vraiment, c'est des tâches qui font appel à des parties de votre cerveau très très différentes.
Ah ben, totalement.
Parce que physiquement, vous ne pouvez pas mettre en scène et jouer. Parce qu'il y a un lâcher prise dans le jeu, il y a un oubli de ce qui se passe à différents endroits du plateau, qui fait que si, quand vous jouez, vous mettez à surveiller ce que fait le comédien derrière vous, comment est placé l'accessoire à cet endroit-là,
exactement.
Bon bah, vous jouez mal, quoi.
Ouais.
Il faut vraiment. Moi, la chance que j'ai eue, entre guillemets, comme je viens de vous le dire, parce que j'ai repris des rôles très récemment, c'est que la mise en scène était déjà faite.
D'accord.
Donc la mise en scène était déjà faite, les comédiens étaient déjà tous calés. Donc quand j'ai eu à reprendre les rôles, je n'ai eu qu'à m'intéresser qu'à ma partition de jeu, qui est beaucoup plus pratique.
D'accord. Est-ce qu'on considère que c'est un spectacle qui colle à la réalité de l'histoire, ou est-ce que c'est un peu romancé?
Alors moi j'ai essayé j'ai lu beaucoup, j'ai écouté des vidéos d'historiens comme Guillemin ou autres, j'ai regardé des films, j'ai essayé de pas trop m'en éloigner autant que j'ai pu. Après, comme on joue l'intimité de ces personnages qu'on voit pas forcément en public, à la tribune, mais plus chez eux, dans des moments de discussion, duel ou autre. Bon, ben c'est quand même pas mal inventé. Disons que je suis parti de, ce qui était très intéressant d'ailleurs, de là où ils pouvaient en être psychologiquement, dans leurs idées, dans leur vision de la Révolution ou autre. Et j'ai essayé d'inventer derrière, d'en faire découler des dialogues et des discussions avec les opinions de chacun à ce moment-là. Il y a des traces, il y a notamment des traces du procès de Danton et des Moulins en avril 94. Pour le reste, il y avait des idées générales. Que j'ai essayé de mettre en dialogue, que j'ai essayé de faire parler, quoi.
D'accord.
dans la bouche des protagonistes.
Ouais. C'est plus facile de faire un deuxième Avignon ou c'est plus facile de faire un premier Avignon quand on ne sait pas ce qui nous attend?
Oui, excusez-moi, j'ai pas entendu.
Est-ce que c'est plus facile de faire un deuxième Avignon quand on sait ce qui nous attend ou de faire le premier parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va?
Après Avignon en tant que festival,
oui.
Je crois que tant Étienne que moi, on doit en être à notre sixième ou septième.
Mm-hmm.
Donc le festival en tant que tel, on le connaît un peu.
Mm-hmm.
Avec la pièce. Moi, je trouve ça plus dur de faire un premier parce qu'on jette la, on sait pas trop comment ça va marcher, on n'a pas de certitude. Mais là, je suis en train de voir je réfléchis en répondant à votre question. On a changé pas mal de choses. Comme déjà moi dans la distribution, même si j'ai pas des partitions principales, c'est des rôles secondaires. Donc ma partition change pas radicalement la chose.
D'accord.
Il y a pas de rôle secondaire.
Oui, il y a pas de rôle secondaire. Oui, bien sûr.
Mais faut faire attention.
Mais entre nous, on peut se le dire quand même. Il y a quand même des rôles qui parlent plus que d'autres.
Ça veut dire qu'en fait, c'est, je veux pas dire que c'est pas la même pièce, mais si quelqu'un l'a déjà vu l'an dernier, ils peuvent revenir cette année. Il y a eu une évolution.
Ah, complètement. Alors là, on peut même le crier sur les toits.
D'accord.
Par effectivement le changement de scénographie avec notamment deux blocs, une forme d'esplanade en bois, je connais pas les dimensions exactes, mais où il y a vraiment possibilité de marcher, de jouer, plus une autre sous forme d'escalier avec une dizaine de marches. Ça change complètement, non seulement la scénographie, mais aussi les scènes et le jeu, puisqu'on est obligé de changer tous les repères et le travail qu'on a fait. Là, c'est repartir quasiment en impro. Alors certes, il y a l'écrit, mais quasiment en impro pour déambuler, appréhender ces nouveaux blocs, cette nouvelle scénographie, et ce qui change non seulement visuellement la pièce, mais aussi les scènes et le jeu, qui change donc les personnages, qui fait évoluer les personnages, le jeu et le reste. Je trouve ça assez génial.
Et Alain, je me permets de préciser, parce que tu as demandé à Étienne le rapport à la vérité historique.
Oui.
De la pièce. Donc effectivement, la pièce, c'est Étienne qui l'a écrite. Mais pour te donner une petite indication de sa véracité historique, les profs d'histoire l'aiment beaucoup.
D'accord.
Les profs d'histoire l'aiment beaucoup. Alors, pas parce que justement elle vient faire doublon avec leur cours, mais ils trouvent ça très bien. Qu'en fin de compte, elle offre un contre-champ intime. Mmh. En gros, on commence à faire jouer les personnages, à les faire parler au moment où les livres d'histoire arrêtent de les faire parler.
D'accord.
On s'intéresse très peu à leurs paroles publiques, à leurs paroles externes. Les discours, les professeurs les connaissent, il y a des traces écrites, même il y a des amateurs, on sait que la Révolution est une période qui plaît beaucoup aux amateurs d'histoire, moi le premier. Donc il y a des gens qui connaissent très bien les faits historiques, les archives parlementaires. Là, ce qu'offre Étienne, c'est vraiment un contre-champ intime, et qui doit être très juste. Et alors déjà, quand on le voit vivre au plateau, on s'apparaît, ça parle très bien, c'est très cohérent. Il fait vivre des états intérieurs à ces personnages qui sont très cohérents, parce que moi qui les dirige et qui les fait exister par la mise en scène, s'ils étaient pas cohérents, je pourrais pas le faire. Or, je me rends compte en le faisant travailler que ça passe très bien. Donc ça veut dire qu'il y a derrière une patte qui a été travaillée, et les profs d'histoire s'en rendent compte, et les élèves s'en rendent compte, puisqu'on a des élèves qui sont très très attentifs et qui ressortent ravis des représentations scolaires qu'on a pu faire pour le moment.
Bah, disons que c'est pour ça que c'est important, parce qu'il y a des fois où les pièces, ça permet d'aller plus loin et puis d'une manière un peu plus ludique et interactive avec ceux qui ont envie de découvrir un peu l'histoire, quoi. Vous allez jouer tous les jours au Théâtre des Corsins à 18h35.
Ouais.
Vous êtes en relâche le lundi.
Oui.
Vous préparez comment? Vous faites de la course à pied, vous faites de la boxe, vous faites un marathon pour tenir un choc, parce que c'est un sacré challenge de faire la totalité du festival.
Bah, surtout que comme tu le sais, à Avignon, tu as une grosse activité de tracking, de démarchage.
Exactement.
Donc qui est presque en volume horaire la principale activité de ta journée.
Tu joues
une heure et demie, hein, mais
exactement.
Mais tu tractes souvent plusieurs heures. Donc c'est effectivement crevant, et bah globalement on fait attention au régime alimentaire, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on boit, on fait attention à l'heure où on se couche. Il y a un régime assez monacal, faut le dire, à Avignon. C'est pas quand on a des pièces comme ça de troupes nécessitant plus un investissement au plateau très important, ouais. Mm-hmm. Faut vraiment le prendre comme un événement sportif, hein. Ah, donc s'y préparer comme tel.
Mm-hmm. Ok. Comment est-ce qu'on fait
pour nos Jeux Olympiques à nous?
Ah bah oui, c'est un peu ça, ouais, parce que c'est vrai que ça te rend 8 ans. À la fin du festival, vous faites quoi? Vous partez en vacances? Vous dites non, il faut vite qu'on remonte sur scène. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites vivement l'année prochaine, qu'on recommence?
Moi, quand je rentre, je donne des stages de théâtre.
D'accord.
Donc je vais avoir quelques jours de vacances, mais pas beaucoup. Je vais enchaîner assez rapidement.
D'accord.
Etienne, je sais pas.
Moi, je joue dans deux spectacles à Avignon, là, deux spectacles par jour, ce qui est une chance. Et je joue une date de l'autre pièce dans la région avignonnaise le 1er août. Et ensuite, je partirai quelques jours en vacances aussi.
D'accord. Ok. Bah, écoutez, ouais. Moi, je vais vous remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour venir présenter votre spectacle, Danton, les derniers jours de Lyon, qui va se jouer au Théâtre des Corsins, à partir du 7 juillet jusqu'à la fin.
Correctement.
Hein?
Jusqu'au 29, jusqu'à la soirée.
Jusqu'au 29, exactement. Ça, c'est important. Ça permet à chaque fois de rappeler que si le Festival In se finit plus tôt, le Festival Off dure jusqu'à fin juillet, en espérant qu'en 2024, grâce aux Jeux Olympiques, on puisse avoir des dates qui soient à peu près les mêmes, ce qui serait très pratique. Merci à vous.
Ouais.
Merci beaucoup, Alain.
Merci beaucoup, Alain.